Pardon, madame, pardon, monsieur, je cherche le chemin de Béré. Oui, de Béré. Vous pourriez me dire où c'est, ça? Qui est-ce qui sait où est le chemin de Béré? Ah, il y en a plusieurs, hein, qui savent. Oui, sur les hauts de Lausanne, à Vennes, c'est là, tout près, que se trouve la Ligue pour la lecture de la Bible. Mais pourquoi ce nom de Béré? Eh bien, nous allons d'abord jeter un coup d'œil sur la carte qui va être projetée pour qu'on le repère. Vous voyez, le trait bleu qui est en haut passe de ce qui est maintenant la Turquie, Troas, à l'Europe. Et vous remarquez, après Néapolis, Philippe. Philippe, dont il a été question dans la dernière méditation sur les Actes, avec ce miracle extraordinaire de la prison qui s'ouvre au milieu de la nuit. Mais ensuite, Paul a dû quitter la ville et il est parti direction ouest. Il est d'abord arrivé à Thessalonique et puis un peu plus loin, à gauche, donc vers l'ouest, à Bérée. Et de là, la route importante romaine, la Via Egnatia, conduisait vers l'Adriatique pour atteindre finalement Rome. Mais l'apôtre Paul n'a pas continué jusqu'à Rome. Pourtant, c'était un de ses désirs d'aller voir cette ville, mais nous ne savons pas trop pourquoi. Il est parti vers le sud et il a passé ensuite à Athènes. Alors, ceci dit, nous allons lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 17, les versets 1 à 4 tout d'abord. Donc ce récit se situe juste après les événements de Philippe, dont Paul a été chassé. Après avoir cheminé par Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, actuellement Salonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul s'y rendit selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, dont il ouvrait le sens pour établir que le Christ devait souffrir et se relever d'entre les morts. « Ce Jésus que moi je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude d'adorateurs grecs et nombre de femmes parmi les notables. Juste un mot d'explication, qu'est-ce que ça veut dire des adorateurs grecs? Le mot adorateur désigne des gens qui n'étaient pas juifs, qui étaient donc de culture grecque, c'est pourquoi on les appelle adorateurs grecs, mais le grec c'était la langue internationale de l'époque, c'est comme l'américain aujourd'hui, ça n'était pas des juifs, mais ils étaient fascinés par l'Ancien Testament et aussi par la manière de vivre des juifs. Alors ils se ralliaient à eux, ils venaient écouter ce qu'on disait à la synagogue, mais ils ne pratiquaient pas encore la circoncision et toute la loi de Moïse. La parole de la loi de Moïse, qui dit qu'il y a un seul Dieu et un Dieu invisible, avait beaucoup de rayonnement dans le monde gréco-romain, où de nombreux philosophes, d'ailleurs, par leur bon sens, leur raison, étaient arrivés aussi à cette conclusion. Si Dieu existe, il est unique et il est au-dessus de tout et il est invisible. Alors, c'est à eux, à ces adorateurs grecs, que Paul va adresser maintenant l'évangile. Nous poursuivons la lecture, les versets 5 à 9. Mais les Juifs, animés d'une passion jalouse, prirent avec eux quelques mauvais garçons parmi la populace. Ils provoquaient des attroupements et de l'agitation dans la ville. Ils assiégèrent la maison de Jason en cherchant Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils traînèrent Jason et quelques frères devant les polytarques en criant « Ces gens qui ont bouleversé toute la terre habitée sont maintenant ici. » Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous à l'encontre des décrets de César en disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces paroles troublèrent la foule et les polytarques qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Quelques remarques. Jason, c'est très probablement la forme grecque qui correspondait au mot hébreu Josué ou Jésus, un nom très courant à l'époque. Dans le monde grec, gréco-romain, les Juifs avaient pris l'habitude de donner à leur nom une tournure grecque. C'était un Juif et il a hébergé Paul et Silas. Les polytarques, le terme est tout à fait exact, confirmé par des inscriptions, c'était le nom porté à Thessalonique par les magistrats de la ville, qui étaient chargés non seulement de l'administration courante, mais qui devaient veiller à ce que le culte, et notamment le culte de l'empereur, soit respecté. Tout à la fin, le dernier mot que j'ai lu, c'est le mot « caution ». Les polytarques ont obtenu de Jason et des autres une caution. Une caution pour garantir quelque chose, c'est garantir que Paul et Silas n'allaient plus mettre les pieds dans leur cité. Paul et Silas sont expulsés et Jason et les autres juifs de la ville qui ont adhéré au christianisme doivent engager leur argent. Et si Paul et Silas revenaient, ils risqueraient gros, pas seulement leur argent. Alors nous poursuivons la lecture et nous arrivons à Bérée maintenant, depuis le verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux devinrent croyants, ainsi que des femmes grecques de haut rang et des hommes en grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique sûrs qu'à Bérée aussi, Paul annonçait la parole de Dieu, ils vinrent là encore pour soulever et troubler les foules. Alors les frères firent aussitôt sortir Paul du côté de la mer. Mais Silas et Timothée restèrent là. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent avec l'ordre pour Silas et Timothée de le rejoindre au plus tôt. Alors vous avez remarqué, à Bérée, on accueille la parole de Dieu avec ardeur. Et non seulement une fois, mais chaque jour, on la scrute, on l'examine pour vérifier l'enseignement. Eh bien ce verset avait frappé un certain médecin missionnaire, le docteur Pierre de Benoît, qui, dans les années 25 à 30, est venu s'établir à Lausanne, a acheté une grande propriété et a mis une maison à disposition pour créer l'Institut biblique Emmaüs, où on examine effectivement chaque jour les Écritures. Et il a aussi permis la création de la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà ce docteur Pierre de Benoît, il avait appelé sa propriété Bérée ou en Bérée, d'où le nom du chemin de Bérée qui a été repris par la municipalité par la suite. Mais j'aimerais revenir à l'ensemble de ce texte. Chassé de Thessalonique, Paul vit un drame. C'est un arrachement, c'est un déchirement. un déchirement qui est celui d'une maman séparée brutalement de ses enfants. Y a-t-il une souffrance plus grande que celle-ci? Je dis une maman, oui, une maman célibataire, Paul était célibataire, mais il avait des enfants et il a été une mère pour les Thessaloniciens. Non seulement un père qui les instruisait, qui les corrigeait et ainsi de suite, mais une mère. Il a écrit ceci dans la première épître aux Thessaloniciens, 2 versets 7 à 8. Nous nous sommes faits tout petits au milieu de vous. Comme une mère prend soin des enfants qu'elle nourrit, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Voilà l'amour maternel de l'apôtre pour les Thessaloniciens. Paul n'a séjourné que 2 à 3 mois au maximum dans cette ville. Il a participé à 3 sabbats dans la synagogue. Ensuite, il a fondé une église composée en majorité d'anciens païens qui n'avaient pas de culture biblique ou très peu. Il les a amenés à la foi en Christ, il les a, pour ainsi dire, accouchés. Ces gens sont nés à la vie nouvelle. C'était une naissance, c'est le point de départ d'une vie nouvelle. Mais enfin, c'est seulement un point de départ. Et quand une maman a mis au monde un bébé, elle tient à ce qu'il grandisse, qu'il fasse des progrès. Alors, imaginons les inquiétudes de Paul au sujet de ses petits chéris. Ils avaient 3 mois, 2 ou 3 mois seulement, hein, de vie spirituelle. Il aurait tant voulu les revoir, leur montrer sa tendresse, les choyer, les nourrir. Mais, comme il le dit dans l'épître aux Thessaloniciens, la première, Satan l'a empêché de retourner là. Alors qu'allait-il devenir ? Est-ce qu'ils avaient vraiment bâti la maison sur le roc? Parce que nous l'avons entendu dimanche dernier, on peut très bien accueillir la parole avec joie, mais ensuite continuer à vivre comme avant, comme si de rien n'était. Pour que la maison soit construite sur le roc, il ne faut pas seulement recevoir la parole, il faut vivre selon cette parole. Alors, les Thessaloniciens, est-ce qu'ils avaient bâti leur maison sur le roc? Est-ce que leur maison pourrait résister aux tempêtes, les pressions du monde païen, avec ses fêtes et ses rites qui unissaient toute la population. Autre tempête, les calomnies et les oppressions de la part de certains juifs. Juifs ? Ben, parlons-en justement de ces juifs-là. À ces chers Thessaloniciens, dans la première épître, chapitre 2, versets 14 à 16, voici ce qu'écrit l'apôtre. « Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce que les églises de Judée ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes. Ce sont eux qui nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu et ils sont hostiles à tous les humains. Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés, et ils ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. » Ici encore, Paul réagit en mère. Quand une maman voit ses enfants agressés, elle sort les griffes. Et c'est bien ce que fait Paul. Oui, mais remarquons-le, ces juifs-là sont très différents des juifs que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu parler de juifs qui parcourent le monde pour faire des adeptes? Je n'ai jamais entendu dire ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu parler de juifs qui empêchent les chrétiens de parler aux païens? Mais pas du tout. La plupart des juifs disent, bon, si vous voulez avoir vos églises, vous adresser aux païens, ça va très bien. Pourvu que vous ne nous dérangiez pas, nous, les juifs, bien sûr. Bon, ben justement, il y a 2000 ans, il y avait une autre tendance du judaïsme. dont Jésus aussi a parlé. Mais aujourd'hui, non. Certains juifs vont même jusqu'à repousser des personnes qui voudraient se convertir à leur religion. Ils sont devenus très sévères, très exigeants, repliés sur eux-mêmes. Alors, une leçon pour nous, gardons-nous de piquer un verset dans la parole de Dieu, puis de l'appliquer mécaniquement à n'importe qui, peut-être parce que nous y voyons une même étiquette. Mais les gens ne se réduisent pas à une étiquette, ce n'est pas parce que quelqu'un a l'étiquette juif qu'il est forcément comme tous les autres juifs, ou comme ceux de Thessalonique autrefois. Gardons-nous de mettre tous les juifs dans le même panier et n'arrachons pas une parole de la Bible à son contexte. Parce que chez les juifs, aujourd'hui, il y a une multitude de tendances diverses. Alors, avant de parler d'Israël ou de parler des juifs, eh bien, renseignons-nous. D'ailleurs, si l'on voulait trouver dans notre histoire, l'histoire des derniers siècles, un comportement qui mériterait les reproches adressés par Paul aux Juifs, ben il faudrait hélas considérer les actions inhumaines, les atrocités commises contre les Juifs et d'autres peuples par des gens qui se prétendaient chrétiens. Vouloir imposer par la force l'adhésion à une église, empêcher les gens de pratiquer leur religion par la force, mais c'est trahir la parole et l'œuvre du Christ. Et ça me paraît plus monstrueux encore que le comportement dénoncé par Paul. À Thessalonique, les ennemis de l'Église ne se réclamaient pas d'une religion de paix et d'amour. Mais comment est-il possible que des gens disant croire à l'évangile de paix et de liberté aient voulu l'imposer par la contrainte et la violence. C'est vraiment le comble des combles du péché. Mais revenons au drame vécu par Paul et par ses chers enfants de Thessalonique. Ils devaient affronter une dure opposition. Paul et ses collaborateurs devaient fuir d'un lieu dans l'autre. Chassé de Philippe, il va à Thessalonique. Chassé de Thessalonique, il va à Bérée. Chassé de Bérée, il va à Athènes. Alors quoi? Quelqu'un dirait peut-être, mais où est le Christ dans tout ça? Certains diraient peut-être, oh ben, il est monté au ciel. Là, il est bien heureux, mais les hommes, ils les laissent se débrouiller. Ce serait une monstrueuse sottise que de dire quelque chose comme ça. Dans le langage biblique, qui est un langage figuré, quand on dit que quelqu'un est à un poste élevé, ça ne veut pas dire du tout qu'il est séparé. Non, c'est presque le contraire. De même qu'un aigle ou un milan voit de 1000 ou 2000 mètres d'altitude, voit beaucoup de choses et jusque les moindres détails. De même qu'un satellite artificiel peut parcourir le globe, tout voir, tout faire voir sur le globe. Sur Google Earth, j'ai même vu les arbres de mon verger, par exemple. Mais c'est une comparaison pour dire, Jésus au ciel maintenant voit tout. Il n'est plus à râler patate, à voir seulement deux ou trois personnes, ou peut-être quelques milliers, mais il voit l'humanité entière. Il voit tous ses enfants et il veille sur tous. Alors, l'apôtre ne s'en est pas aperçu tout de suite, semble-t-il. Mais les choses vont changer. L'apôtre enverra Timothée à Thessalonique, et quand Timothée reviendra porteur de bonnes nouvelles, quel émerveillement! Non seulement les Thessaloniciens ont tenu bon dans l'épreuve, mais ils ont progressé. C'est devenu même une église modèle. Et l'apôtre Paul, qui était mort de peur, dit « Maintenant je revis, parce que je sais que vous êtes attaché à Jésus-Christ. » Quelle merveille! Oui, c'est vrai, l'apôtre était absent de Thessalonique, mais Jésus-Christ, élevé au ciel, était présent à Thessalonique. Entre parenthèses, remarquons que cette église est une église anti-suisse. Elle était persécutée, nous ne sommes pas persécutés, nous sommes même souvent bien vus, estimés de nos compatriotes, pas de tous bien sûr. L'église de Thessalonique était brûlante d'espérance et elle attendait l'avènement du Seigneur d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Est-ce que c'est notre cas ? Moi, j'ai plutôt l'impression que les églises suisses laissent l'espérance de côté dans une petite rubrique. Oui, on a l'idée qu'un jour le Seigneur reviendra, mais on ne vit pas en fonction de cette espérance, en tout cas pas beaucoup, me semble-t-il. Et puis, ce qui est très anti-suisse, c'est que l'église de Thessalonique reléguait le travail à l'arrière-plan. Le travail, c'était le dernier souci de beaucoup de Thessaloniciens, au point que l'apôtre, la mère, le père des Thessaloniciens a dû quand même les corriger, leur dire « mais mettez-vous au travail, que chacun s'occupe de ses propres affaires, etc. Hein? » Bon, il n'aurait pas eu besoin de dire ça aux Suisses, parce que le Suisse moyen met le travail, le plan de carrière en première priorité. Et je n'ai pas l'impression que cette mentalité soit totalement absente de nos églises. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, tant mieux. Mais quant à Paul lui-même, Paul était chassé d'un endroit puis d'un autre. Mais il va mettre le feu de l'évangile à un autre endroit. C'est comme quand on disperse les braises d'un feu, ça allume partout. Satan l'a empêché de réaliser certains projets, mais le Seigneur utilise même le travail de l'ennemi pour se glorifier et pour amener beaucoup d'hommes au salut. Les Juifs qui calomniaient les premiers chrétiens à Thessalonique disaient « Ils ont bouleversé toute la terre habitée ». C'était bien sûr une exagération, une amplification presque incroyable. Mais enfin, ça dit quand même quelque chose. Ils n'auraient pas pu le dire si la transmission de l'évangile était restée confidentielle. Non, c'est vraiment comme un incendie qui s'allume d'un coin dans l'autre. Et de plus, si l'apôtre n'a pas pu revoir ses chers enfants, il leur a écrit. Et tous les hommes du monde aujourd'hui peuvent lire ces lettres, la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens, qui sont parmi les plus anciens écrits du Nouveau Testament. Comme les Thessaloniciens, nous reconnaissons dans ces messages de Paul une parole de Dieu, tout autant que l'Ancien Testament, ce qu'on appelait à l'époque les Écritures. Et ici, justement, nous touchons à un trésor qui nous est accessible à nous aussi. Notre Église est bien différente de celle de Thessalonique, mais comme à Thessalonique, comme à Bérée, nous pouvons découvrir la personne et l'œuvre de notre Sauveur par la Bible, et cela individuellement et sous la conduite d'un frère ou d'une sœur. En effet, pour que l'Ancien Testament dévoile ses richesses, il a fallu l'enseignement de Jésus et des apôtres. Il a fallu aussi le secours de l'Esprit-Saint. Les Juifs opposés à Jésus ou à Paul lisaient l'Ancien Testament et même ils le mémorisaient, mais ils ne le comprenaient pas. Il a fallu que Jésus montre que les Écritures rendent témoignage de lui, comme nous le lisons dans l'évangile de Jean 5, 39. Il a fallu que Paul, en Grèce, ouvre le sens des Écritures. Alors, il y a là derrière aussi un avertissement pour nous. C'est bien de lire la Bible, mais si on veut s'enfermer, la lire absolument tout seul, ne jamais écouter les autres, on risque de dévier. Et malheureusement, vous avez sûrement entendu parler d'un certain nombre de sectes qui ont dévié parce que leurs fondateurs ont prétendu avoir à eux seuls la compréhension du message de l'Écriture. Avant l'intervention de Jésus et du Saint-Esprit, les Juifs n'arrivaient pas à comprendre certaines paroles étonnantes de l'Ancien Testament. Le Messie était présenté dans l'Ancien Testament parfois comme un roi triomphant ou comme étant à la fois roi et prêtre. Ça, c'est stupéfiant parce que la loi mosaïque séparait ces deux ministères. Et parfois, le Messie était présenté comme souffrant, méprisé, écrasé. Alors quoi? Comment comprendre? Est-ce qu'il y avait deux Messies? Mais tous ces textes s'éclairent en Jésus-Christ, mort, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Nous avons le privilège de trouver dans nos églises des guides sûrs qui nous ouvrent le sens de la Bible. Mais nous avons aussi le privilège d'agir comme les croyants de Bérée. Et justement, il faut faire les deux choses. Se laisser guider, se laisser ouvrir l'esprit, et puis prendre la peine de rechercher soi-même. Les croyants de Bérée examinaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur enseignait est exact et pour en faire une nourriture personnelle. C'est ce que nous sommes invités à faire. Ne soyons pas simplement des chrétiens qui sont à la remorque des autres, mais écoutons le Seigneur nous parler personnellement à travers les pages de la Bible. Alors en conclusion, j'aimerais souligner ceci, deux choses. La première, c'est que si nous rencontrons de l'opposition à notre témoignage chrétien, si nous connaissons l'échec, ne nous décourageons pas. Croyons vraiment que Jésus, monté au ciel, est souverain. Loin de nous abandonner, il fera aboutir nos échecs et même certaines manœuvres du diable au salut des hommes et à sa gloire. Croyons aussi qu'il veille sur ceux que nous ne pouvons pas suivre, qui sont loin de nous. Il les chérit plus que nous les chérissons. Et deuxième chose, si nous voulons vivre dans la proximité de ce Seigneur glorifié, si nous voulons l'entendre nous parler, écouter Dieu, eh bien, lisons et méditons la Bible en attendant de l'Esprit Saint qu'il ouvre notre esprit pour comprendre et pour communiquer personnellement avec lui. C'est là la bonne nouvelle que nous partageons. Amen.